Bonjour et bienvenue sur CFM pour cette nouvelle émission des Messagers du Cheval. Je suis heureuse de vous retrouver après la coupure de l'été. J'espère qu'il vous a permis de vivre de belles expériences en compagnie de vos chevaux préférés. Du 23 juillet au 3 août, nous avons pu suivre les Jeux Olympiques de Tokyo qui nous ont offert beaucoup d'émotions et de belles performances de la part des chevaux et de leurs cavaliers. Voilà pourquoi j'ai choisi d'évoquer aujourd'hui des exploits marquants et de revenir sur la performance de l'équipe de Suède, équipe multimédaillée en saut d'obstacle, qui a monté des chevaux non ferrés, une décision inattendue à ce niveau. Mais tout d'abord, ces Jeux Olympiques nous ont permis de vivre des moments forts, des moments qui ont marqué l'histoire de l'équitation olympique. Comme vous le savez, aux Jeux Olympiques, l'équitation comprend trois disciplines, le dressage, le concours complet et le saut d'obstacle. Dans chacune d'entre elles, les cavaliers et les chevaux concourent pour une médaille individuelle et une médaille par équipe. Commençons donc par le dressage et l'exploit accompli par la cavalière britannique Charlotte Dujardin. Nous vous l'avions présenté lors de la sortie en France de son livre « La fille sur le cheval qui danse ». Après avoir obtenu deux médailles d'or à Londres en 2012, une médaille d'argent et une médaille d'or à Rio en 2016, Charlotte Dujardin remporte deux médailles de bronze à Tokyo, ce qui fait d'elle l'athlète britannique olympique la plus titrée de l'histoire du sport. Entre Rio et Tokyo, son cheval Valegro, avec qui elle avait traversé les deux Olympiades précédentes, a pris sa retraite. Comme les cavaliers de dressage le savent, il faut beaucoup de temps pour amener un jeune cheval au plus haut niveau. Et pourtant, c'est ce qu'a fait la Britannique en obtenant ses deux médailles de bronze avec Gio, surnommé Pumpkin. Cet alezan n'a que 10 ans et il n'avait jamais participé à un championnat majeur avant ses Jeux Olympiques. C'est une performance absolument remarquable que nous a donc offert Charlotte Dujardin. Par équipe, la Grande-Bretagne finit troisième derrière l'Allemagne et les États-Unis. En individuel, deux cavalières allemandes se hissent sur les deux premières places du podium olympique. Jessica van Bredow-Verden, associée à TS Valera, prend l'or et Isabelle Wörth, qui montait Bella Rosa, la médaille d'argent. Avec la médaille d'or par équipe, Isabelle Wörth est devenue la première cavalière de l'histoire à compter 7 médailles d'or en équitation. Et avec sa médaille d'argent en individuel, elle détient désormais le record de médailles olympiques remportées par un athlète en équitation, c'est-à-dire 7. Alors un autre exploit a été également accompli par une autre cavalière allemande, cette fois-ci en concours complet. Alors je rappelle, pour ceux qui l'avaient oublié ou qui ne le sauraient pas, que cette discipline comporte 3 épreuves, le dressage, le cross-country et le saut d'obstacle. Le concours complet a failli disparaître de la liste des sports olympiques face à l'entrée de nouvelles disciplines. Depuis 2004, et il a donc un peu changé de format et comprend désormais 2 épreuves de saut d'obstacle. Un premier tour détermine le classement final par équipe et une seconde manche est réservée aux 25 meilleurs cavaliers afin d'établir le classement final individuel. Le concours complet n'est devenu une discipline mixte qu'aux Jeux olympiques de Tokyo en 1964. Il a fallu attendre 57 ans pour qu'une cavalière remporte la médaille d'or dans cette discipline. Et cet exploit, c'est celui de Julia Krawczewski et de la jument Amande de Benville, une selle française de 11 ans. La jeune Allemande avait obtenu la médaille d'argent par équipe aux Jeux Olympiques de Rio pour sa première participation. Cinquième à l'issue de l'épreuve de dressage, elle s'est octroyée la deuxième place du cross-country avant de terminer par un sans-faute dans l'épreuve de saut d'obstacle. Et pourtant, Julia Krawczewski n'aurait jamais dû se retrouver à Tokyo sans le forfait de sa compatriote Ingrid Klimke. Et elle a d'ailleurs dû faire face à la retraite anticipée de son cheval Samouraï du Thor. Néanmoins, comme on a pu l'admirer, elle s'est révélée être exemplaire tout au long de ce concours complet, s'imposant brillamment. La médaille d'argent revient au Britannique Tom McEwen, déjà médaillé d'or par équipe au tour précédent, devant le vétéran australien Andrew Hoy, dont c'était les 8e Olympiades. Il avait d'ailleurs été médaillé d'argent en individuel aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. C'est également une deuxième médaille pour l'Australie, qui termine en argent par équipe, la France remportant la médaille de bronze. Il faut signaler que les Britanniques avaient survolé les deux premières épreuves du dressage et du cross-country avant d'aborder le saut d'obstacle. Ils ont devancé les Australiens de plus de 13 points de pénalité, un écart considérable, en sachant qu'à Rio en 2016, l'écart entre la médaille d'or et d'argent n'était que de 3,8 points de pénalité. La Grande-Bretagne n'avait plus gagné en concours complet depuis 1972. Nous arrivons enfin à la compétition de saut d'obstacle qui clôture les disciplines équestres aux Jeux Olympiques. Pour le titre individuel, la lutte avait été âpre, puisque l'anglais Ben Maher et son cheval Explosion W ont arraché la médaille d'or au Suédois Peder Fredriksson, associé à HM, pour 17 centièmes de seconde. Le Néerlandais Michael van der Vleuten prend la troisième place. Derrière lui, deux autres cavaliers suédois et le japonais Daisuke Fukushima. Trois Suédois dans les cinq premiers, cela augurait bien la compétition par équipe. Et en effet, elle a été remportée par l'équipe de Suède, une médaille d'or que les Suédois n'avaient plus obtenue depuis 1924, soit bientôt presque 100 ans. Malin Bayard-Johnson, associée à H&M Indiana, Peder Fredriksson et All In, ainsi que Henrik van Eckermann et son cheval King Edward, enlèvent la compétition après un barrage les opposant aux cavaliers de l'équipe des États-Unis, Laura Crott, McLean Ward et Jessica Springsteen. Ils ont tous les six fait un sans faute et seule 1:30 va les séparer. La Belgique obtient, elle, la médaille de bronze. Mais avant d'aborder le thème suivant, nous allons maintenant écouter l'hymne olympique des Jeux de Tokyo 2020-2021 par Mr. O. De la Suède en saut d'obstacle a été d'autant plus remarquée que deux des trois chevaux de l'équipe, H&M, All In et King Edward, ne portaient pas de fer, ce qui est très inhabituel à ce niveau. Et comme nous allons le voir, leurs cavaliers et leurs maréchaux ferrants ont des approches un peu différentes. King Edward est le troisième cheval de l'histoire des Jeux à n'avoir réalisé aucune faute sur l'ensemble des épreuves de saut d'obstacle. Avant lui, seuls deux autres chevaux avaient réalisé cet exploit. Elliott, associé à František Ventura aux Jeux Olympiques d'Amsterdam en 1928, et All In, son coéquipier à Tokyo, déjà monté par Peder Fredriksson à Rio en 2016. All In, surnommé Alan, est un cheval de sport belge et King Edward est un BWP, comme HM Indiana, la jument de Malin Bayard-Johnson. Alors le WP est un cheval de sang chaud belge. Avec 3 médailles, All In fait partie des chevaux les plus titrés des Jeux Olympiques. Cette longévité est importante, comme Peter Frederiksen l'avait souligné dans un interview, je le cite, « Afin qu'un cheval puisse avoir une longue carrière dans ce sport, je crois qu'il faut monter sans faire. Par ailleurs, les sensations quand on saute sur un cheval non ferré, sur une bonne surface, sont absolument fantastiques. » Peter Frederiksen a déféré All In il y a 2 ans, car il sentait que son cheval se sentait mieux sans, et il s'y est très vite habitué. Alors avec l'arrêt des compétitions dues à la Covid-19 l'année dernière, le cavalier suédois avait saisi l'opportunité de tenter des expériences nouvelles. Je le cite encore, « Mon vétérinaire pense que c'est une bonne chose de laisser les chevaux sans faire pendant quelques semaines, de temps en temps », avait-il confié en mai 2020. « Donc je les ai fait déférer parce que je pensais effectivement que c'est bon pour eux. J'étais curieux de voir comment ils se déplaçaient et s'ils réagissaient différemment. Quand ils n'ont pas de fer, les pieds s'usent naturellement, ce qui peut aider un maréchal ferrant à optimiser la manière dont il travaille. Je pense ne pas ferrer un de mes chevaux tout en continuant à faire de la compétition, car il se sent beaucoup mieux sans. Tous les chevaux sont différents, j'essaie donc de garder l'esprit ouvert, car je crois que dans notre sport, nous ne savons pas tout. Chaque jour nous apprend quelque chose de nouveau. » C'est le maréchal ferrant Peter Glimberg qui s'occupe depuis 3 ans des pieds des chevaux du cavalier suédois dans son centre d'entraînement de Grevlunda. Il a d'abord entraîné de jeunes cavaliers en obstacle et élevé ses propres chevaux, puis il s'est tourné vers la maréchalerie. Il a été attaché à une clinique vétérinaire avant de rejoindre le centre de Peter Frederiksen. Les informations qui suivent proviennent d'une longue interview que le maréchal ferrant a donnée au blog Hoofblog. Peter Glimberg explique qu'il essaie de trouver un juste milieu entre les avantages et les inconvénients liés à une ferrure ou à son absence. Parmi les aspects négatifs liés à la ferrure, il souligne le fait qu'avec un fer, le sabot n'est plus en contact avec le sol et qu'en conséquence, il perd le support de la fourchette et de la sole. Alors rappelons que la fourchette protège les tissus sensibles et vascularisés de la face du pied. Elle est en forme de V caractérisée par un tissu spongieux et élastique. Sous la fourchette se trouve le coussinet plantaire ou coussinet digital. Ce coussinet absorbe le choc vertical et le redistribue de manière horizontale à l'ensemble de la paroi du sabot. Son rôle est de préserver un maximum l'ensemble des articulations du cheval. Alors pour Peter Glimberg, sur des carrières modernes aux surfaces très fermes, un sabot avec un fer en aluminium ou en acier va subir un stress excessif, notamment au niveau de l'articulation de l'os du pied, car les surfaces en sable fibré ne permettent pas à l'une des parois du sabot de s'enfoncer en effectuant un mouvement de rotation. Mais par contre, elles conviennent bien aux sabots non ferrés. Néanmoins, le cheval ne passe pas sa vie sur ce genre de surface. Comment faire lorsqu'il est au paddock ou sur un marcheur, par exemple? Comme la corne du pied s'use plus vite qu'elle ne pousse, cela peut entraîner des douleurs du pied. Il faut donc protéger le sabot. Alors cela peut se faire avec des hypo-sandales, mais la plupart du temps, Peter Glimberg applique une fine couche de résine collage à prise rapide d'environ 3 à 4 mm. Parfois, les chevaux font de la compétition avec et parfois non. Cela sert essentiellement à protéger le pied dans les zones qui entourent la carrière. La qualité de l'environnement autour du parc de Tokyo était telle qu'il n'a pas été nécessaire d'en appliquer. Cependant, quand les chevaux se déplacent sur de l'herbe, Peter Glimberg a créé des fers en aluminium très fin qui peuvent être utilisés avec des crampons et plus récemment encore en acier car ils lui semblent plus efficaces. Comme ils sont extrêmement fins, la fourchette peut fonctionner normalement. Pour le maréchal ferrant, il convient avant tout de garder les chevaux en bonne santé tout en résistant à l'entraînement nécessaire aux compétitions. On ne peut pas faire courir les chevaux plus vite, ni sauter plus haut, mais on peut les aider à rester en bonne santé et à obtenir les meilleurs résultats. Cela me rend très humble, a-t-il confié. Mon conseil, essayez d'être le plus proche possible des pieds non ferrés. King Edward, le cheval d'Eric van Ackerman, a été déféré pour d'autres raisons. Son cavalier avait en effet remarqué qu'il avait les pieds sensibles et donc il a décidé de le déférer puis de le reférer plus tard. Mais au cours des entraînements, Henrik von Eckermann a réalisé que son cheval se sentait beaucoup mieux. Aussi, il a décidé de le garder déféré, ce qui n'est pas sans contrainte, surtout lorsqu'il se déplace hors de la carrière. Il faut que la selle et la fourchette soient solides, car il en a vraiment besoin et on ne doit pas affaiblir le sabot, explique le cavalier. En compétition, quand les chemins à emprunter pour se rendre sur le lieu de la compétition, hein, puisque les chevaux sont au box, parfois les chemins sont durs, longs et caillouteux. Il faut donc mettre des fers qui sont enlevés dès que le cheval arrive à la carrière d'échauffement. Il faut faire extrêmement attention au terrain sur lequel les chevaux se déplacent, explique le cavalier suédois. C'est là que l'on peut avoir des problèmes. Contrairement au maréchal ferrant de Peder Fredriksson, nous n'utilisons jamais de résine. Ils ont décidé d'utiliser de la résine quand le sol est très abrasif, alors que nous préférons ferrer. Je pense simplement qu'il ne faut rien utiliser sur les pieds non ferrés, alors que si on utilise de la résine, nous devons l'utiliser aussi dans la carrière, et pour moi, ce n'a pas l'effet que nous souhaitons. Cela apporte de l'épaisseur, mais à chacun son opinion. Pour Vincent Lamaille, le maréchal ferrant de King Edward, un cheval qui marche sans fer a une meilleure élasticité transversale du sabot, particulièrement lorsqu'il atterrit après avoir sauté un obstacle. Cela permet aux parties postérieures du sabot de bouger indépendamment les unes des autres. Quand les chevaux sont déférés, ils usent leurs cornes de manière égale. Cependant, sur l'herbe, il faut trouver une autre solution. Et donc, lui aussi choisit de mettre un fer. Lui, il a choisi un fer de 6 mm au lieu des 8 habituels, très ajusté au sabot qui supporte les crampons. Je le cite. Personnellement, je préfère les fixer avec 4 clous par sabot, car je trouve cela moins destructeur que la colle. Le but étant d'enlever les fers dès que la compétition est terminée. Ferrer ou ne pas ferrer? Telle est la question que se posent les maréchaux ferrants et les cavaliers. Pour Éric Lamaille, il ne faut pas que cela devienne une mode. Je pense et j'espère que la plupart des cavaliers n'en retiendront que le bon côté et ne le feront que si leurs chevaux en ont vraiment besoin. Je suis sûre que certains feront moins bien sans fer qu'avec. Comme souvent dans les compétitions sportives de haut niveau, des vocations vont naître et de bonnes questions vont se poser après ces Jeux olympiques. On ne peut espérer qu'elles puissent que continuer à nous faire rêver pour le meilleur et placer toujours le bien-être du cheval au cœur de nos préoccupations. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine en attendant une nouvelle émission.